Toyota Cowansville est fier de rouler aux côtés du balado Le Guide de l'auto. En écoutant cet épisode, rendez-vous sur le site cowansvilletoyota.com et voyez la grande sélection de véhicules en inventaire, dont les BZ4X et les Tundra. Toyota Cowansville. Ici, chaque client est unique. Bonne écoute!
Le Guide de l'auto. Parcours l'actualité automobile sans dérapage ni accrochage.
La voiture dont tu nous parles cette semaine, Hugues, est une curiosité pour la plupart des gens et on ne se souvient pas nécessairement que cette voiture-là a été produite. On parle bien sûr de la Buick Reatta, qui est une voiture deux places vendue par Buick à partir de 88.
C'est ça. Qu'est-ce que vous devez faire quand vous estimez que vous devez redorer le blason de votre marque? Bah, sortir
question souvent posée par des Américains, ça.
Eh hein? Oui.
Mercury, Lincoln. Ouais, c'est ça.
Sortir un véhicule spécial qui vous permet de monter en gamme est une bonne piste. Pour Buick, cela signifiait créer une nouvelle image qu'ils avaient baptisée élégance sportive.
Oui. Bon, évidemment, le projet Reatta, c'est un projet qui a été la vision d'une personne chez Buick, mais qui a dû composer avec des contraintes un
ouais,
peu.
Exactement. Alors, cette personne, c'est Lloyd Royce. Il est entré chez GM en 1957 et prend le titre d'ingénieur en chef de Buick en 1975, avant d'en devenir le directeur général en 1980, après avoir passé 2 ans comme ingénieur en chef de Chevrolet de 78 à 80. Dès 1975, il réfléchit à un modèle deux places et vers 77-78, un premier projet est évalué sur la base des futurs G-Car de 82, les Chevrolet Cavalier. Mais déjà sur le papier, le projet perd de l'argent. À son retour chez Buick en 80, Royce tente une nouvelle approche, cette fois-ci avec la plateforme des futurs e-car traction avant, Buick Riviera, Oldsmobile Toronado et Cadillac Eldorado, qui seront lancés en 1986.
C'est intéressant ce que tu dis, parce qu'évidemment, on cherchait à développer une voiture biplace chez Buick, mais on n'a pas pensé à utiliser ce qu'on avait pris comme technologie pour développer la Fiero, qui était une biplace en 84.
Qui était probablement... Le problème de la Fiero, c'est que le moteur était à l'arrière. Et ça, c'est un...
Chez Buick, ça marchait pas.
C'était un... Déjà chez Pontiac, un jour, on fera l'histoire de la voiture. Et ça a été déjà chez Pontiac un projet très, très difficile à vendre. Ouais. Il a fallu qu'il mente un peu sur la direction à prendre du projet, la direction pour que le feu vert soit donné. Ça a été déjà très, très touché à faire. Je pense pas que chez Buick, ça serait passé.
Mais c'est intéressant d'observer tout ça et de voir à quel point chez GM, à l'époque... Les marques individuelles ne se parlaient pas. Ils avaient des projets qui leur étaient uniques. Aujourd'hui, tu ne peux pas développer un GMC sans être très, très collé sur Chevrolet. C'est impossible.
C'est beaucoup plus difficile.
Ouais.
Et parce qu'encore une fois, à l'époque, les divisions fonctionnaient encore à ce moment-là en silo. Et en fait, même la clientèle voulait... que on voulait une Buick avec un moteur Buick et c'était pas de dire non tu peux pas mettre un moteur Chevrolet dans ma Buick comme aujourd'hui maintenant je veux dire il y a plus de moteur Buick, il y a plus de moteur Chevrolet,
non,
c'est du
ça.
GM.
C'est ça.
Mais à l'époque il y a même eu des procès des clients qui disaient moi il y a un moteur Oldsmobile dans ma Pontiac, j'attaque.
Ouais ouais, c'est
donc,
ça.
Donc c'était il y avait aussi il y avait des incohérences chez GM, mais il y avait aussi une attitude de la clientèle qui faisait qu'on était un peu aussi dans un cercle vicieux.
Voilà. C'est ça. Donc là, tu me dis, on est allé puiser avec la technologie des Oldsmobile Toronado, les grands coupés qu'on avait
exactement.
Chez General Motors à l'époque.
Ils sont prévus pour être lancés en 86, et justement, en utilisant cette base-là et avec l'utilisation massive de pièces de série, le programme apparaît rentable à des volumes relativement faibles. Et Royce arrive à vendre le projet à la direction de GM, qui l'approuve à l'été 81. À ce moment-là, le véhicule doit être commercialisé au millésime 84, mais ça, c'est en théorie.
Bon, c'est la plateforme essentiellement qui va poser problème sur cette voiture-là, parce que là, il faut peut-être retravailler l'idée sérieusement. Là.
Exactement. Un concours interne est lancé pour dessiner ce futur coupé Buick et c'est Dave McIntosh qui travaille au studio de design avancé numéro 2 sous la direction de David North qui le gagne. C'est une proposition tout en courbe avec des phares escamotables à l'avant et un toit aux formes déjà très proches de la version finale.
Ouais.
Mais le problème, c'est que ces lignes ne rentrent pas sur le châssis raccourci de 9,5 pouces de la future Buick Riviera et c'est pour cela qu'il est décidé de rajouter une arête qui fait tout le tour de l'auto afin de casser les rondeurs et un petit peu de modifier les proportions. Le bandeau arrière, bah, quant à lui, bah, il est inspiré tout simplement par la poche 911. Normalement, lorsqu'un programme progresse, il sort du studio de design avancé pour aller vers un studio de production qui va se charger de l'industrialisation. Mais comme peu de monde chez GM croit que ce coupé arrivera un jour en série, bah, tout le développement se fera exceptionnellement au niveau du studio de design avancé, histoire de faire bouger les choses.
Et le design ne sera pas le seul problème de la Reatta, là, en
plus. Oh, que non. Avec la nomination à la tête de GM en 1981, Roger Smith décide une réorganisation interne massive qui aboutira à l'abolition de l'autonomie des divisions, dont on parlait il y a quelques instants, et à la création en 1984 de deux méga groupes CPC, Chevrolet Pontiac Canada, et plus spécialement destiné à la conception des petites voitures, et BOC, Buick Oldsmobile Cadillac, plus orienté vers les gros modèles. Cette réorganisation entraînera un immense chaos dans la corporation durant de nombreuses années. Entre ça et l'intense activité des bureaux d'études à cette époque, qui ont les programmes C-Body et N-Body pour 1985 et E-Body pour 86, tout ça obligera le chef de projet de la Reatta, Frank Colvin, à recourir à des ressources extérieures. Le développement est alors disséminé entre Détroit, l'Angleterre et le Japon. Alors, vous pouvez imaginer un petit peu la facilité à gérer tout ce petit monde. Autre problème, GM n'est pas habitué à la fabrication de petites séries. Une ancienne usine d'essieux d'Oldsmobile à Lansing dans le Michigan est reconvertie. Au lieu d'utiliser une chaîne d'assemblage classique qui défile en continu, le nouveau chef de projet, G. Robert Thompson, choisit une méthode par poste. Un véhicule robotisé déplace chaque Reatta vers 24 postes séparés où des ouvriers accomplissent leurs tâches. Ceci permet de réduire l'investissement et améliore la qualité. Le site est rebaptisé pour l'occasion Reatta Craft Center et servira plus tard à la production des GM EV1, Cadillac Eldorado et Chevrolet SSR.
Okay.
Avant d'être détruit en 2008.
Un festival de véhicules à succès.
Voilà. Okay. Mais la place est-elle maudite?
Ouais, c'est ça. Bon, évidemment, le véhicule en soi était quand même pas un produit vilain.
Non, pas du tout.
Et au niveau de la qualité, c'était très bien aussi. On avait une bonne base mécanique. Là.
Absolument. Malgré tous ces problèmes, la Reatta est finalement présentée en janvier 88. Le projet a pris près de 4 ans de retard à cause, entre autres, de la réorganisation, mais aussi du fait d'une entente entre Cadillac et Buick qui stipulait que la Reatta devait être lancée après la LNT.
Ah oui.
Okay. Exactement. On l'avait oublié, celle-là.
Ouais.
Il s'agit d'un coupé OCX de 0,34 sur un empattement de 2,50 m, long de 4,64 m et haut de seulement 1,30 m.
Oui, c'est tout petit.
C'est tout petit.
Ouais.
Suspension indépendante aux 4 roues avec un ressort transversal en composite à l'arrière, 4 freins à disque, ABS de série. Côté mécanique, pas de surprise, on retrouve le vénérable V6 3,8 litres, 265 chevaux et 210 livres-pieds de couple avec une transmission automatique à 4 rapports. L'équipement est complet, siège électrique en cuir et suède, radio cassette, vitre électrique, verrouillage central, trappe dans la banquette pour les objets longs, deux compartiments verrouillables à l'arrière. Seules deux options au lancement sont les sièges ajustables en 16 directions et le toit ouvrant, offert un petit peu plus tard dans le millésime.
Je me suis toujours demandé pourquoi GM n'avait pas mis le 3,8 supercharge dans cette voiture-là, considérant qu'on l'avait déjà dans la bonne ville, par exemple, dans certains autres produits.
C'est une excellente question.
Et c'est une voiture qui avait cette vocation d'avoir un moteur plus performant.
Honnêtement, quand on voit la rigidité de ce châssis, on se dit que 165 chevaux, c'est amplement suffisant.
C'est ce que c'est capable de prendre. C'est peut-être une partie de la réponse.
Je suis pas sûr que le châssis aurait pu encaisser le supercharger.
Bon, cela étant dit, c'est une voiture qui se distingue par un paquet de trucs intéressants.
Mm-hmm.
Et l'habitacle, bon, évidemment, plus luxueux que celui d'une Pontiac Fiero au niveau de l'ergonomie de la planche de bord, de la disposition, ça ressemblait énormément, mais c'était un vrai véhicule de luxe pour l'époque. Là. C'était même avant-gardiste. Là.
Oui, puis il y a quelque chose de spécial. C'est le ECC, l'Electronic Control Center. La planche
moi,
de
ECC,
bord...
quand j'étais au secondaire, c'était éducation, choix de carrière. Ça n'a rien à voir. OK. Mais bon.
Okay. Non, effectivement.
OK.
Rien à voir.
Et tu auras compris que je ne suis pas allé souvent à ce cours. Bon, trêve de plaisanterie, on continue.
On continue. La planche de bord est intégralement reprise de la Riviera et embarque donc le tout nouvel écran tactile. C'est une vraie folie pour l'époque. Il comprend les commandes de climatisation, du système de son. Il y a aussi un ordinateur de bord, le diagnostic de l'auto et un calendrier. Mais faut pas oublier qu'on est en 1988, donc ce n'est pas un écran à cristaux liquides, mais bel et bien un tube cathodique à l'ancienne, comme dans les vieilles télés. Le système est donc lent et pas toujours très fiable, et la clientèle n'embarquera pas. S'ils savaient ce qui les attendait 30 ans plus tard.
Ouais, ouais, c'est ça.
Voilà.
C'est ça.
Bon. Au lancement, Buick fait bien attention à ne pas présenter la Reatta comme un véhicule sportif, on vient d'en parler, mais plutôt comme une auto luxueuse, agréable à conduire et facile à vivre. Au Canada, elle est offerte à la somme quand même copieuse de 39 998 $.
On est en 88, là.
Ouais. C'est en comparaison, une Riviera, ça demande 32 898, une BMW 325i est à 32 900, une Cadillac Eldorado est à 40 498 et une Allen T,
ouais, ouais,
en comparaison, 83 178 $.
Fallait le faire.
Allez. À ce moment-là, Buick espère écouler de 5 à 7 000 exemplaires pour le premier millésime tronqué et ensuite vendre aux alentours de 15 000 exemplaires par année dans les années suivantes. Un cabriolet est d'ores et déjà prévu pour 1989. Et petite note intéressante, quand le nom a été proposé par David North en hommage au film géant de 1956 avec Rock Hudson, Elizabeth Taylor et James Dean, et dont l'histoire se passe dans un ranch texan baptisé Reatta, mais avec un seul T, un mot qui veut dire l'assaut en espagnol.
Je ne savais pas. Bon, comment ça se passe les choses avec ce produit-là? Ça connaît du succès?
Bah, initialement, c'est plutôt pas mal. L'accueil de la presse est plutôt bon. Elle salue la qualité de finition, l'excellent compromis entre le confort et la tenue de route, ainsi que l'équipement, mais moins l'impuissance un peu limitée, on en a parlé, l'écran tactile et le pas très très gracieux porte-à-faux avant imposé par l'utilisation du châssis E. Le millésime 89 ne voit que peu de changements. Les ventes sont déjà par contre en deçà des attentes de Buick. Le cabriolet arrive en 1990 au lieu de 89, parce qu'en fait, la plateforme E, au départ, n'avait pas été conçue pour se passer du toit. Donc, il a fallu une année additionnelle pour développer...
Rigidifier tout ça.
Et encore, se rigidifier, c'est un bien grand mot.
Est-ce qu'on avait fait appel à American Sunroof Company pour ça? Ou c'était vraiment à l'interne?
Je pense que c'est à l'interne.
OK.
Ça, je pense que c'est
à l'interne. Parce que GM a fait affaire avec eux
très souvent, régulièrement. Hein. Mais comme c'était un produit qui a été développé un peu on the side, je pense qu'ils ont réussi à faire ça à l'interne. Et je me dis que si ASC avait participé, ça aurait peut-être été mieux fait aussi.
Peut-être. Très heureux qu'on n'ait pas fait de version avec des toits de vinyle de cette voiture-là, parce que Buick était bon là-dedans aussi à l'époque. Ça aurait été assez laid.
Ah non, mais non, je pense que là, ils n'auraient pas osé. Là. Ça aurait vraiment été moche. Oh mon Dieu. Le toit à ouverture manuelle ne fait pas non plus l'unanimité, parce que, mine de rien, le supplément demandé pour le cabriolet est de 8 000 $. Ce qui est quand même un petit peu sérieux. Pour 1990, il y a une nouvelle planche de bord entraînant la disparition de l'ECC, donc le contrôle des cours, et l'apparition d'un coussin gonflable. Les ventes ne décollent pourtant pas en 1990 et 1991 ne voit que quelques améliorations mécaniques, V6 à 170 chevaux et 220 livres-pieds de couple, nouvelle boîte automatique à contrôle électronique et rapport de pont modifié, puis l'équipement est un petit peu enrichi. Mais tout ça ne suffit pas et Buick est largement en dessous de ses objectifs.
On a l'impression qu'on l'a lancé puis qu'on l'a juste laissé aller. Qu'on n'a pas mis les efforts nécessaires pour la faire connaître.
À l'époque, on avait l'impression que si ça décollait pas tout de suite, GM avait un petit peu de difficulté à soutenir des produits qui avaient un petit peu de problèmes, alors que effectivement, il manquait pas grand chose.
S'il y avait un produit qui était de qualité très honnête pour l'époque, dans une ère où les produits GM étaient assez bâclés, merci, c'était un produit
intéressant. Justement, je pense que c'était aussi justement dû au procédé de production par poste, lent, avec vraiment des ouvriers dédiés à des tâches, et plutôt que la chaîne qui roule, et puis qu'on n'arrête pas, même s'il y a un gros problème. Quoi.
Donc, 92, on tire la plug, et c'est celui qui a initié le projet qui va l'annoncer.
Et oui, c'est quand même assez étonnant, parce que c'est Lloyd Russ lui-même qui, entre-temps, est devenu président de GM, qui annonce le 5 mars 91 la fin de la Reatta. Le dernier modèle sort des chaînes le 15 mai 91 après seulement 21 751 exemplaires. C'est pas beaucoup. C'est 19 314 coupés et seulement 2 437 cabriolets. C'est vraiment très peu. Les raisons de l'échec sont multiples. Image floue, prix élevé, absence de V8. Et puis, il faut quand même reconnaître qu'à l'époque, il y a peu de strictes de place qui arrivent à dégager du profit. On ben pense ouais. à la Corvette et à la Miata, c'est à peu près tout. Mais ces véhicules sont des sportives. Et donc, en fait, au final, la Reata n'aura pas fait grand-chose pour l'image de Buick, qui commencera à s'éroder sérieusement dans les années suivantes. Comme quoi, c'est pas toujours facile d'attraper la clientèle, même quand on s'appelle l'assaut.
On n'en a pas fabriqué beaucoup des Buick Reata en terminant, mais c'est peut-être mon feeling. J'en vois tout le temps une ou deux passer sur Marketplace à des prix ridicules.
C'est des voitures qui ont, j'irai pas jusqu'à dire un cult following, mais ceux qui les aiment vraiment et en prennent soin. Et on peut trouver des très, très beaux exemplaires encore aujourd'hui.
À prix raisonnable.
Oui, à prix raisonnable.
Ouais, ouais. Mais il ne faut pas mettre de V8 Supercharge dedans.
Ah oh non. C'est pas une bonne idée. Non, ça va déchirer en deux.
Ça va plier en deux. Merci, Hugues.